Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse, incardiné à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche.
Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette nouvelle émission où nous allons commenter les lectures du quatrième dimanche de Pâques, le dimanche du bon pasteur. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire. Et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara : Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre, méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. Et en nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Le refrain du psaume nous dit : la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. De la première lettre de saint Jean. Bien-aimé, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. thème de ce dimanche est celui du bon pasteur. Et l'Église a voulu donner à tous les quatrièmes dimanches de Pâques, durant donc les trois années A, B, C, et donc cette année aussi qui est l'année B, le thème, la figure du bon pasteur. Donc ce quatrième dimanche est dédié au bon pasteur, avec chaque année la lecture d'un passage du chapitre 10 de l'évangile de Jean, où Jésus-Christ parle justement du bon pasteur et de sa relation avec les brebis, et de sa relation aussi avec les faux pasteurs, c'est-à-dire les mercenaires. Et après les récits des apparitions que nous avons eues ces trois premiers dimanches de Pâques, on a maintenant deux figures qui nous sont proposées par l'Église. Et ce sont deux images traditionnelles, deux que la liturgie utilise pour parler du baptême et de l'Eucharistie. Si vous allez dans les catacombes à Rome, vous verrez très souvent cette figure du bon pasteur, du berger, qui conduit ses brebis vers des prés d'herbes fraîches. C'est l'image de celui qui conduit son troupeau à la vie éternelle, à la vie immortelle. Cette vie immortelle a été donnée à travers le baptême. Et les chrétiens préservent cette vie du baptême pour pouvoir rentrer dans la vie immortelle, dans l'éternité. Mais nous avons aussi cette figure de la vigne, qui est l'image de l'entrée dans la terre promise. Lors de la Pâque, il y a la bénédiction du pain, azim, qui est l'image du pain de l'esclavage, de la servitude. Que Jésus-Christ va briser ce pain. Il va briser le cercle de la mort, de la servitude, pour nous faire entrer avec le calice rempli de vin, fruit de la vigne, mais surtout fruit de la terre promise. Parce qu'Israël pourra, à la sortie d'Égypte, où il n'y a pas de vigne qui pousse, planter des vignes, récolter cette grappe énorme que les explorateurs, pendant l'Exode, sont allés récupérer en Terre Sainte, dans la terre promise. Et ce raisin, ce vin est l'image de l'entrée dans la terre, de la prendre possession véritablement de la vie immortelle. Et Jésus-Christ est cette vigne véritable qui nous donne à boire le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, de ce vin nouveau. Jésus-Christ dira « Je ne boirai plus de ce vin avec vous jusqu'à ce que nous le buvions ensemble » dans la vie éternelle. Donc l'Église, après avoir proclamé ces récits des apparitions du Christ, continue sa catéchèse mystagogique, c'est-à-dire d'expliquer les mystères que les baptisés ont reçus dans la nuit de Pâques, parce que dans le baptême, dans la nuit pascale, ils ont reçu les sacrements de l'initiation chrétienne, qui sont le baptême, la confirmation et, sommet de tout, l'Eucharistie. Et donc, dans ce temps de Pâques, l'Église va donner à ces néophytes, à ces nouvelles plantes, ces nouveaux-nés que sont les baptisés de Pâques, va leur donner une catéchèse que nous avons à travers tous les pères de l'Église, après le baptême, pour les introduire de manière plus profonde, plus belle, dans les sacrements qu'ils ont reçus, le baptême, mais surtout le don de l'Esprit-Saint dans la confirmation et, de manière suprême, le don de l'Eucharistie, cette nourriture qui nous donne la vie éternelle, que nous donne le bon pasteur, le bon berger. Et nous avons donc des prières dans ce jour qui sont propres à cette fête du bon pasteur. L'oraison de collecte débute en disant « Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. » Que le que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Donc, le Seigneur nous guide, nous conduit. Le Seigneur est mon berger, il me guide vers des prés d'herbes fraîches, c'est-à-dire jusqu'au bonheur du ciel. Et nous prions le Père, le pasteur suprême de ses brebis, de conduire le troupeau que nous sommes, nous, les brebis du Christ, malgré notre faiblesse, malgré les difficultés que nous avons à suivre le Seigneur, à faire ce qu'il nous demande, qu'il nous conduise là où le pasteur est entré victorieux, c'est-à-dire dans le ciel. Il y a une hymne de Pâques, que l'on chante surtout à l'Ascension, qui dit que le bon pasteur est monté aux cieux pour attirer à lui ses brebis. On pourrait, dans cette fête, non pas choisir une préface du temps pascal, mais celle des apôtres. La première préface des apôtres nous dit en effet « Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes avec les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. » Donc vous voyez que dans la fête des apôtres, l'Église fait mémoire de Dieu et de Jésus-Christ comme pasteur éternel, qui gardent par leur protection le troupeau et qui ont confié cette charge pastorale aux apôtres. Et c'est Dieu qui dirige les pasteurs qui conduisent aujourd'hui l'Église. La prière sur les offrandes nous dit « Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours rendre grâce par ces mystères de Pâques. » Qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie. Nous avons ici rien de particulier sur le bon pasteur, mais nous avons la continuité avec cette demande que nous puissions parvenir malgré notre faiblesse là où se trouve le pasteur des brebis. C'est cette œuvre de relèvement que le Seigneur a fait. Et cette source intarissable de joie, c'est justement cette relation avec le pasteur. L'antienne de communion nous dit, nous cite l'évangile de Jean, le bon pasteur est ressuscité, en la modifiant, puisque Jean ne dit pas le pasteur est ressuscité. Le bon pasteur est ressuscité, lui qui a donné sa vie pour ses brebis, lui qui a choisi de mourir pour son troupeau. Alléluia. Nous avons dans cette antienne tout le mystère pascal. Et vous comprenez bien que le mystère pascal de la résurrection est toujours uni à celui de la souffrance, de la passion, de la mort. Jésus-Christ dépose sa vie, donne sa vie pour ses brebis. Pour cela, il est le bon pasteur, parce qu'il est mort à notre place. Il a choisi de mourir pour son troupeau, donc il se substitue à nous, le berger, pour la brebis. La prière de communion nous dit, Seigneur, plein de bon pasteur, plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages éternels. Et dans les catacombes, on a cette image de la, comme aussi les mosaïques qui sont au sol dans les grandes basiliques comme à Saint-Marco à Venise, cette image du paradis, des fleurs, des plantes, des fruits qui poussent partout. C'est l'image du pâturage éternel, du paradis, et on le retrouve dans les fresques, dans les catacombes. Et donc, Dieu nous a rachetés par le sang de son Fils. Mais c'est un pasteur plein de bonté, comme on l'entendra dans les lectures aussi, que cette miséricorde, cet amour de Dieu a été incroyable pour son troupeau. Donc ce thème de ce bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, qui n'est pas lui comme de mauvais pasteurs. En effet, cette image des mauvais pasteurs dans l'Évangile renvoie aux actes des apôtres lorsque Pierre harangue les Juifs membres du Sanhédrin en leur disant que c'est eux, les mauvais pasteurs, qui ont méprisé, eux, les bâtisseurs, ont méprisé la pierre d'angle. Eux n'ont pas été pasteurs du troupeau. Ils n'ont pas fait paître les brebis pour le Seigneur, mais pour eux-mêmes, parce que leur pouvoir était en danger. Et donc, ils ont vu que Jésus-Christ, en annonçant cette miséricorde, ce pardon, cette non-résistance au mal, risquait de mettre à mal leur manière de vivre. Et donc, Pierre dénonce le fait que ce sont des mercenaires. Et le lien, donc on continue dans le temps de Pâques à annoncer le kérigme des apôtres, la prédication des apôtres, qui se manifeste véritablement berger des troupeaux et de ceux qui ne sont pas encore chrétiens, qui n'ont pas encore demandé le baptême. Et ils le font à travers l'annonce de la bonne nouvelle. Et ils annoncent une chose, c'est que cette pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Et dans le judaïsme, ça reste une énigme au temps de Jésus. Qu'est-ce que c'est que cette pierre? Le Seigneur est le rocher, mon défenseur, ma citadelle, hein, cette forteresse, hein, roccaforte, on dit en italien, c'est-à-dire ce rocher hein, sur lequel est fondée la cité, la ville, sur un piton rocheux. Eh bien, elle est devenue cette pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, méprisée, trouvée pas adaptée à la construction, c'est elle qui tient tout l'édifice. Et ce passage est tiré du psaume 117, qui est un psaume que récitent les Juifs lors de la pour préparer la Pâque. Dans le Seder Pascal, on chante ce psaume. Et c'est un psaume profondément pascal, parce qu'il dit « Je ne mourrai pas, mais je vivrai, j'annoncerai les actions du Seigneur. Il m'a châtié le Seigneur, il m'a châtié, mais sans me livrer à la mort. En effet, Jésus-Christ ressuscité. » Et il dit « Cette pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. » C'est-à-dire que nous pouvons rejeter aussi Jésus-Christ, sa faiblesse, mépriser sa passion, son humiliation, son humilité, mais Dieu regarde l'humilité de sa servante, de la Vierge Marie, et de son fils Jésus-Christ, le serviteur, pour le constituer pierre d'angle. Et cela, le fait de transformer cette pierre rejetée par le bâtisseur en pierre d'angle, c'est ça l'œuvre du Seigneur. C'est ça le grand amour dont nous a aimé le Père. Hein? Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes devenus fils de Dieu. C'est un amour immense, celui du pasteur. Et que le Seigneur veut que nous soyons semblables à lui, que nous devenons nous aussi des pasteurs. Pour cela, si vous voulez, l'image et la fête du bon pasteur n'est pas seulement celle de l'ordination des prêtres qui seront ordonnés à Rome ou à Madagascar en ce jour, en cette fête du bon pasteur. Mais chaque chrétien est appelé à devenir berger de son troupeau, de sa famille, des personnes qui lui sont confiées. Parce que ce que dira Jésus à Pierre, « Paie mes brebis, fais paître mon troupeau », il nous le dit à nous aussi, dans le baptême. Nous avons une charge pastorale, nous aussi, à travers le baptême. Nous devenons prêtres, prophètes et rois. Et prêtres, donc, avec cette charge, si vous voulez, pastorale, de nous occuper, de conduire les personnes à Jésus-Christ, vers les pâturages. Et nous aussi, de donner notre vie pour le troupeau. Il n'y a pas que le prêtre qui doit donner sa vie pour son troupeau. Il y a aussi chacun d'entre nous, parce que nous sommes un seul corps, nous sommes confiés les uns aux autres. Et cette charge pastorale n'est pas attribuée seulement aux prêtres. C'est aussi une des crises de l'Église aujourd'hui, hein, qui est la crise de la société, de renvoyer sur les élites ou sur les responsables la charge du troupeau. Et non plus, comme c'était au temps apostolique de l'Église primitive, un soin de tous, la communion, avec un ministère particulier, un service particulier donné aux pasteurs de l'Église, institué par les apôtres. Mais cette charge pastorale est de tous. Et c'est en cela, si vous voulez, que
Le Seigneur nous confie une mission merveilleuse, merveilleuse. À prendre soin les uns des autres, à avoir la nature et du Christ, à lui être semblable, c'est-à-dire à déposer notre vie en rançon pour la multitude, à donner notre vie pour le troupeau. Le refrain de l'Alléluia nous dit « Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Il y a donc véritablement une connaissance de la part de Dieu de ses brebis. Dieu nous connaît très bien. Et les brebis connaissent, savent qui est le bon berger, savent que le berger a déposé sa vie pour eux. Il y a donc cette connaissance mutuelle qui est le fondement de notre foi, qui est cette relation avec Jésus-Christ. Et l'extrait de cet évangile sur, sur le bon pasteur de ce dimanche prend les versets 11 à 18. Donc, on sort un peu du cadre. Jésus-Christ est dans le temple et il parle de l'enclos des brebis. Et figurez-vous qu'en grec, l'enclos des brebis se dit exactement comme l'enclos du temple. Et donc, Jésus-Christ parle aux pasteurs de son peuple, donc aux juifs et aux grands prêtres, qui sont à la tête du peuple. Et il les renvoie face à cette image très belle et très profonde d'Israël, qui est « Dieu, le Seigneur est mon berger, je ne crains aucun mal ». Le Seigneur est le gardien d'Israël, gardien dans le sens de berger. Et donc, cette image de Dieu qui est le pasteur, l'image de David qui était le pasteur du troupeau, Moïse était pasteur d'un troupeau, lorsqu'il voit le buisson ardent. Dieu a choisi dans son peuple pour gouverner, pour conduire son peuple, puisque gouverner dans le sens d'avoir du pouvoir, gouverner dans le sens de conduire. Il a choisi des bergers. C'est très intéressant. En Corse, par exemple, nos bergers connaissent le nom de chacune de leurs brebis ou de leurs chèvres. Ils les connaissent véritablement. Ils savent quelle est la brebis qui viendra en premier le soir pour manger en rentrant à la bergerie et qui va être le capimatia, la tête du troupeau qui va guider les autres. Et les autres suivront derrière. Il connaît les brebis mères. Il sait quelles sont celles qui sont malades, celles qui viennent de mettre bas, celles qui sont en train d'allaiter. Le berger a véritablement une connaissance presque paternelle de ses brebis, hein, qui sont comme ses enfants. Et c'est très intéressant parce que dans la Bible, le rapport le plus intime avec l'animal n'est pas le chien, c'est la brebis. Et de fait, on n'a pas le même rapport avec un chien ou un chat et la brebis. C'est une autre nature. C'est pour ça que l'Écriture, non seulement parce qu'il y avait beaucoup de troupeaux et beaucoup de bergers en Israël ou dans le monde méditerranéen, mais parce que c'est un animal qui a une configuration, une noblesse différente des animaux de compagnie que nous avons aujourd'hui. Et ce ne sont pas des prédateurs. Le chien comme le chat sont des prédateurs, comme animaux de compagnie. La brebis n'est pas un animal prédateur. Il se nourrit d'herbe. Il n'est pas carnivore. Il est doux. La brebis n'a pas ne se défend pas de la même manière. Elle fuit face au danger. Elle n'attaque pas. Et Jésus-Christ nous donne cette image du pasteur qui connaît ses brebis et qui, pour ça, peut dire « Je suis hein, »« Ego eimi » comme Adonai, hein, Yahvé. « Je suis le Seigneur ton Dieu. Je suis le bon pasteur, le vrai berger, le berger véritable, l'unique, si vous voulez, qui donne sa vie pour ses brebis. Ce qui fait de lui un bon pasteur et un vrai pasteur, c'est qu'il donne sa vie pour ses brebis. Il ne donne pas la vie des brebis pour lui. Il donne sa vie, lui, pour les brebis. Et il fait tout de suite la différence avec le mercenaire, le berger qui n'est pas propriétaire des brebis. Et donc, il ne donne pas sa vie pour elles. Et donc, il n'est pas pasteur. Les brebis ne lui appartiennent pas, et surtout, lorsqu'il voit le loup arriver, il abandonne les brebis et s'enfuit parce qu'il a peur. Jésus-Christ n'a pas peur du loup, pas peur de la mort. Au contraire, au moment d'entrer librement dans sa passion, il prit de manière décidée la route vers Jérusalem pour aller mourir. Et la différence entre le bon berger et le mauvais berger, c'est que le mauvais berger qui est un mercenaire, les brebis ne comptent pas pour lui. Elles n'ont aucune importance parce qu'il n'a pas cette relation de connaissance et d'amour envers elles. Il les utilise pour faire du fromage, faire son commerce, faire son lait. Et le fait que Jésus-Christ soit le bon pasteur, je connais mes brebis. Il sait qui elles sont, ce qu'elles vivent. Et ces brebis connaissent aussi qui est le pasteur, cette vie qu'il a à l'intérieur de lui. Et cette connaissance réciproque entre le berger et la brebis est semblable à celle du père et du fils. Le père connaît le fils, sait qui est le fils, et il aime le fils. Et le fils sait qui est le père pour lui, qui est son père. Et combien son père l'aime. Donc, on ne peut pas aimer ce que l'on ne connaît pas, nous dit saint Augustin. C'est une pensée classique de l'Antiquité. Et donc, connaître permet d'aimer. Et toute l'initiation chrétienne est de connaître le mystère de notre salut. Et ce temps de Pâques est pour connaître ou reconnaître, apprendre à connaître de nouveau les profondeurs de la vie chrétienne, de notre union avec le berger et donc de notre union avec les autres brebis. Et Jésus-Christ a d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, c'est-à-dire, il parle des païens, l'évangélisation des païens. Et Jésus-Christ veut conduire les autres brebis vers les frais pâturages. Et il dit, ces brebis-là qui ne sont pas les miennes aujourd'hui, elles écouteront ma voix. Elles reconnaîtront ma voix. C'est très intéressant parce que si vous allez vous promener un peu en campagne et que vous êtes proche des bergers, si vous appelez les brebis, elles ne viennent pas à vous. Hein. Le berger est à côté. Il commence à, comme une chamoudia, il commence à faire des bruits pour appeler ses brebis hein, et elles viennent immédiatement à lui. Même si vous criez plus fort. Parce qu'elles reconnaissent la voix du berger. Elles reconnaissent la tonalité de l'amour qui leur est donné par le berger. Et donc, elles ne suivront pas quelqu'un d'extérieur. Parce qu'elles ont compris que les autres ne donnent pas leur vie pour elles. Et donc, Jésus-Christ voudra former avec toute l'humanité un seul troupeau. Il y aura un seul pasteur. Jésus-Christ est le bon pasteur, le pasteur suprême des brebis. Et pourquoi Jésus-Christ aime le Père? Il aime le Père parce qu'il donne sa vie pour la recevoir de nouveau. Alors ça nous semble un peu énigmatique à première vue. Le signe est Pourquoi j'aime le Père, nous dit Jésus? Parce que il m'a donné cette capacité, sa nature, de donner la vie, de créer la vie. Et donc, comme Dieu donne la vie, il peut donner sa vie. Vous comprenez? Comme Dieu est créateur et fait surgir la vie de rien, il peut lui-même donner sa propre vie. Et non seulement la donner, mais la reprendre de nouveau, c'est-à-dire ressusciter, vaincre la mort. C'est le signe du pouvoir énorme de Jésus-Christ. Nous avons peut-être la capacité de donner notre vie. Une mère donne sa vie pour ses enfants. Les martyrs ont donné leur vie pour le Christ. Mais ils n'ont pas la capacité, le pouvoir de la recevoir de nouveau, de se la redonner. Ah non. De fait, nous sommes des mendiants d'amour parce que nous donnons notre vie, mais nous nous attendons qu'on nous donne quelque chose en retour parce que nous, on ne peut pas se redonner la vie quand on la perd. Et Jésus-Christ, le fait qu'il est la source immortelle de la vie, c'est qu'il la donne et il la reçoit de nouveau. Il peut la reprendre. Et personne ne peut lui enlever la vie. C'est lui qui la donne. Donc personne n'a de pouvoir sur lui. Le prince de ce monde l'attaque, mais il a trouvé en lui rien qui lui appartienne. Dit une hymne du milieu du jour. Jésus-Christ a le pouvoir, la capacité, la force, l'autorité de donner et de recevoir de nouveau. C'est ce qu'il a reçu comme commandement de son Père. Va et sauve mon peuple, donne ta vie pour eux et reviens. Donne-leur ta vie, ressuscite et ressuscite-les pour les conduire. Dans ce sens, cette vie que reçoivent les apôtres les fait arriver à cette prédication que fait Pierre avec Jean, rempli d'Esprit Saint, toujours le jour de la Pentecôte. Et ils ont guéri un infirme dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de ce pasteur. Cet homme infirme n'était pas pasteur, n'était pas une brebis du troupeau de Jésus-Christ, mais à travers les apôtres, ils deviennent brebis du Christ, à travers ses pasteurs. Et Jésus-Christ qui a été crucifié par nous, Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et comme il est ressuscité d'entre les morts, il peut guérir un paralytique, il peut se faire des miracles, parce qu'il est l'auteur de la vie. Et donc ce Jésus devient une pierre qui a été méprisée, écartée par les bâtisseurs. Mais elle est devenue la pierre qui soutient tout l'édifice. Et tellement il soutient l'édifice qu'il n'y a pas de salut ou d'autres noms qui puissent être invoqués sur la terre pour nous sauver que celui de Jésus, Yeshua. Dieu sauve, Dieu sauve. Signifie Jésus. Et donc on ne peut être sauvé que par Dieu sauve. Et Dieu sauve est son nom. Alors on peut vraiment rendre grâce au Seigneur parce qu'il est bon et éternel est son amour. Éternel veut dire immortel. Il s'est donné à nous cet amour et il est revenu au Père pour nous aimer de nouveau. Alors si Jésus-Christ est la pierre d'angle, on peut s'appuyer sur le Seigneur plutôt que se compter sur les bâtisseurs. Et on peut vraiment rendre grâce au Seigneur car il nous a exaucés. En quoi il nous a exaucés? Il est pour nous le salut. Parce que l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux, c'est que ce qui a été écarté est devenu le fondement de la vie. Cet homme méprisé, l'homme des douleurs qui portait notre souffrance, est devenu la pierre d'angle. Le Fils de Dieu assis à la droite du Père, qui intercède pour nous. Et donc, on peut, à ce moment-là, bénir celui qui vient, qui est Jésus-Christ, et le bon pasteur. Il vient de la maison du Seigneur. Et il est notre Dieu, et on peut rendre grâce et exalter notre Dieu en Jésus-Christ. Rendre grâce parce qu'il est bon. Et la lecture de Jean continuera. Bien-aimé, quel grand amour! Bien-aimé, amour, on est dans ce vocabulaire vraiment familial de l'amour. Nous sommes enfants de Dieu. À cause du Père, de ce que nous a donné le Père, on est enfants de Dieu. Et le monde ne peut pas connaître, ne peut pas connaître ce que vivent les chrétiens, ce que sont les chrétiens, parce qu'ils ont méprisé cette pierre d'angle qu'est la communauté chrétienne. Ils n'ont pas connu Dieu, ils n'ont pas connu que l'abaissement de Dieu, que Dieu est venu souffrir, mourir pour nous. Mais vous, vous êtes enfants de Dieu, vous connaissez Dieu. Vous connaissez ce que Dieu a fait en vous. Et alors, quand Dieu va se manifester, ce que nous serons sera manifesté. C'est-à-dire qu'il y a encore un devenir. Nous sommes chrétiens, nous avons reçu le baptême, peut-être le Seigneur a commencé à donner cette nature nouvelle en nous, mais ce que nous serons, on ne le sait pas encore. Les temps ne sont pas encore accomplis, mûrs pour nous. On le saura, on le verra dans la vie éternelle. Mais quand cette nature que Dieu nous a donnée, qui est de donner notre vie pour le troupeau, sera manifestée, alors on sera semblable à lui. Et on le verra tel qu'il est, c'est-à-dire mort et ressuscité. On le verra tel qu'il est. Jésus-Christ apparaît aux apôtres avec les plaies glorieuses. Et donc c'est le même corps ressuscité qui est marqué par les clous. Voilà comment il est. Il porte la passion, il porte la résurrection, parce qu'il est amour. Alors, chers amis auditeurs, bon dimanche du bon pasteur, et que nous puissions vraiment nous aimer les uns les autres et déposer notre vie les uns pour les autres, comme le bon pasteur a fait pour nous. À la semaine prochaine.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante
je chante.
tu prépares ma table. Là devant mes adversaires, tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagne pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur, et je chante.